l'actu des oubliés. Saison 6. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Pour le premier épisode de notre sixième saison, nous partons aux États-Unis. Face à l'offensive de la police de l'immigration, une réponse émeutière a réveillé la cité de Los Angeles. 10 jours d'insurrection solidaire avec les personnes privées de papier qui se déploient désormais dans l'ensemble des États-Unis.
Las autoridades tomaron la decisión porque más de 100 personas fueron arrestadas hasta la noche de ayer y la madrugada del día de hoy.
L'ICE, ICE, c'est l'Immigration and Customs Enforcement, la force publique en matière d'immigration. Elle a été créée après les attentats du 11 septembre pour renforcer la sécurité nationale et lutter contre la criminalité, en particulier donc les criminels de nationalité étrangère. Or, dans le discours de Donald Trump, toutes les personnes sans papier sont devenues criminelles. Le président, arrivé au pouvoir en janvier dernier, invoque, pour pouvoir interpeller les personnes dites illégales, l'Alien Enemies Act, un texte qui date de la Seconde Guerre mondiale, voté à l'époque pour interner les ressortissants japonais résidant aux États-Unis lorsque les deux pays étaient en guerre. L'ICE est donc largement encouragé à mener la plus grande vague de déportation de l'histoire des États-Unis, soi-disant au nom de cette sécurité nationale. En outre, elle a désormais le droit d'agir dans des lieux dits sensibles qui lui étaient autrefois interdits. Les écoles, les crèches, les lieux de soins ou les églises, ainsi que les manifestations. Dirigé par Tom Homan, que Trump surnomme le tsar des frontières, l'ICE mène des raids contre des personnes sans papier, procède à leur arrestation et à leur déportation. En pleine rue, elle contrôle et embarque des vendeurs ambulants de café. Au tribunal de New York, elle rôde pour interpeller parfois des familles entières. Elle ne traque pas seulement les personnes en arrivée ou en transit dans le pays, mais s'attaque à toutes les personnes considérées comme illégales par le pouvoir, y compris si elles sont installées depuis des dizaines d'années ou qu'elles ont des enfants nés sur le sol états-unien. Sarah y confie ainsi à RFI « Mes parents n'ont pas de papier, mais ils travaillent dur et ils payent des impôts. Ça fait 30 ans qu'ils vivent ici. » Les arrestations mènent aux déportations. Pour certaines personnes, cela signifie retrouver un pays qu'elles ne connaissent plus, où elles n'ont plus d'attache ni de lieu où vivre. Les opérations de l'ICE suscitent la terreur et prennent bien souvent la forme d'une course-poursuite qui se termine souvent par l'interpellation violente de la personne privée de papier. Comme il y a 5 ans après l'assassinat de George Floyd, tout semble avoir commencé à Minneapolis. Le 3 juin, un message arrive sur une boucle signal, la messagerie cryptée. Un raid des fédéraux est en cours à l'angle de la 29e et de l'avenue Bloomington. Sur place, une petite foule parvient à chasser les agents de l'ICE d'une taqueria, où supposément, ils prévoyaient de rafler des personnes sans papier. Les personnes scandent « Cassez-vous d'ici !» tandis que la trentaine d'agents tentent de se faire un passage avec leurs armes chimiques. Elles se retrouvent finalement noyées dans la foule, sans pouvoir se dégager. Des gaz lacrymaux. Comment tu te sens? Mal, voilà comment je me sens. Ils sont revenus. Ils ont foutu la merde il y a 5 ans dans ce quartier. Et ils sont de retour. Le raid intervient 4 ans après l'expulsion d'une zone citoyenne autonome installée en 2020, durant laquelle Winston Smith avait été abattu par un policier anti-émeute. Un assassinat de plus dans ce quartier populaire, un assassinat dont tout le monde se souvient. Et le quartier répond une fois de plus à l'agression. Sous la pluie, voisins et voisines harcèlent les militaires équipés comme pour la guerre, et de minute en minute, le rassemblement gonfle. Une femme confie au Sun Journal « Je suis vraiment heureuse de voir autant de gens sortir aujourd'hui, des gens qui vivent ici ». C'est Minneapolis, bébé. On se défend, quoi. Les fourgons noirs dans lesquels quelques personnes ont malgré tout pu être embarquées sont bloqués par la foule, avant que finalement, la police locale ne vienne s'interposer. Après négociation, les personnes arrêtées sont finalement relâchées et l'ICE quitte les lieux. Le maire de la ville ira même jusqu'à faire une vidéo pour nier que sa police ait collaboré avec l'ICE et d'ailleurs que l'opération n'avait rien à voir avec la chasse aux personnes privées de papier, mais avec le trafic de drogue. Beaucoup de personnes présentes rejettent la version du maire et dénoncent un prétexte pour s'en prendre à des personnes innocentes. Le site d'info autonome CrimeThink écrit « Les opérations de l'ICE sont conçues pour terroriser la population, et c'est bien là l'enjeu numéro un. Déployer une telle violence physique, sociale et psychique dans la société est une attaque contre toutes et tous, et la promesse d'un État toujours plus barbare. La cruauté graduelle de l'administration, quel que soit le sujet, pousse en tout cas à la résistance dans un nombre croissant de localités. Bien que l'administration Trump ait commencé par s'attaquer aux immigrés, avec ou sans papier, il ne s'agit que d'une première étape vers l'établissement d'une autocratie. Le pouvoir fédéral s'en prend d'abord aux immigrés, les considérant comme la cible la plus vulnérable. Mais leur objectif global est d'habituer la population à la passivité, en brisant les liens fondamentaux de solidarité reliant les communautés humaines.
De piel morena, de raza mexicana, haciéndole a los migras una vuelta a la chicana. Guerreros aztecas, buscando la lana, nadie es ilegal, en tierra robada. A la verga el ICE, soy hijo del maíz, orgulloso de mi tierra y de mi país.
Ce 3 juin est quoi qu'il en soit le premier jour d'une série de raids contre les personnes privées de papier à travers l'ensemble du pays. Le soir, on découvre qu'à San Diego, en Californie, une scène similaire s'est déroulée à proximité de deux restaurants italiens. Les fédéraux, traités de nazis et de fascistes, se retirent après avoir découvert que la foule ne lâcherait rien, malgré les lacrymos. Un anarchiste de Minneapolis juge, après cette journée, « L'arme la plus puissante que les autorités aient contre nous, c'est la peur, intensifiée par le brouillard de guerre et la confusion entretenue par le flot des fausses informations. » Quoi qu'il arrive, nous devrions rester calmes, analyser ce qui est en train de se passer, vérifier les informations et établir une réponse. Nous devons résister aux provocations, ou nous serons des jouets entre leurs mains. L'aspect le plus positif des événements d'aujourd'hui est tout de même la vitesse avec laquelle autant de gens ont été capables de se mobiliser, forçant les fédéraux à repartir la queue entre les jambes. Il faut espérer que nous n'ayons plus jamais à faire face à cela, et que si nous le devons, nous revenions à chaque fois deux fois plus forts. Le lendemain, c'est à Chicago et Grand Rapids que des affrontements surviennent. Puis le 6, la rumeur se répand dans la ville de Los Angeles. L'ICE est présente en différents endroits de la ville et perquisitionne des lieux où travaillent supposément des personnes dites illégales. L'un de ses modes d'action est en effet d'aller chercher les personnes sur leur lieu de travail. À LA, une cible spécifique va faire l'objet d'une véritable traque par les agents de l'ICE. Il s'agit des Home Depot. Ces magasins de bricolage voient tous les matins affluer des personnes privées de papier qui espèrent trouver un travail journalier dans le bâtiment. Plusieurs matinées consécutives, l'ICE cible donc ces rassemblements. Des images circulent, certaines arrestations sont particulièrement violentes, par exemple lorsqu'un type qui s'enfuit est renversé par la voiture de l'ICE puis interpellé sans ménagement. Finalement, l'alerte est donnée au marché aux fleurs. L'ICE est à l'intérieur d'un bâtiment et procède à des arrestations. La foule se rassemble en un quart d'heure et bloque toutes les issues, enfermant les agents à l'intérieur. CrimeThink écrit encore, en plein milieu de Los Angeles, à proximité des quartiers de Sky Row et de Piñata, deux quartiers populaires principalement habités par une population issue de l'immigration latino-américaine, les agents s'imaginaient pouvoir rafler des personnes au hasard sans que les gens ne réagissent. De toute évidence, ils se sont trompés. À l'intérieur, les agents de l'ICE appellent des renforts. La porte principale, bloquée par un véhicule du syndicat des employés de service, est dégagée par un véhicule blindé. La foule résiste et tente d'empêcher les agents de sortir avec les personnes qu'elle a arrêtées à l'intérieur. C'est finalement le FBI qui intervient et tire des lacrymos et des balles de caoutchouc dans la foule. Une foule, doit-on le rappeler, qui n'est constituée que des proches des personnes arrêtées, des familles en larmes et terrorisées de ce qui va arriver à leur père, mari ou frère lorsqu'il aura disparu dans ce fourgon blindé.
Cops.
Alors qu'un camion passe en force dans la foule, il renverse et interpelle David Huerta, président de la section californienne du syndicat des employés de service et figure reconnue de la lutte et des initiatives solidaires à Los Angeles. L'homme est blessé puis interpellé, la scène est filmée et suscitera encore davantage l'indignation dans la ville. La foule cède alors à la colère. Elle commence à jeter tout ce qui lui tombe sous la main à la face du FBI. Celui-ci réplique à coups de grenades de désencerclement. Certaines voitures suivent finalement les fourgons de l'ICE jusqu'à l'aéroport. Mais malgré des recherches, personne ne saura où sont envoyées les personnes arrêtées. Immédiatement, Los Angeles répond. Des manifs éclatent dans les quartiers où l'ICE sévit, dans Fashion District, mais aussi à Westlake et South Los Angeles. On marche avec des pancartes contre les déportations et en scandant « Libérez-les tous ». Il faut dire que la deuxième plus grande ville des États-Unis se considère comme une ville sanctuaire pour l'immigration. D'abord, 3,4 millions des 10 millions d'habitants du comté sont d'origine mexicaine. Les Latinos sont aussi la principale cible de l'ICE. L'histoire de la ville est d'ailleurs largement marquée par les émeutes antiracistes, depuis les émeutes de Watts en 1965 à celle de 1992, ayant suivi l'acquittement des policiers qui avaient tabassé Rodney King. En 2020, LA se soulève dans la foulée de Minneapolis suite à l'assassinat de George Floyd. Le mouvement actuel s'inscrit d'ailleurs très vite dans la continuité de Black Lives Matter. C'est que rien n'a changé depuis lors. À Minneapolis, 44% de la population a voté pour l'abolition de la police. Mais les réformes éventuelles du corps policier, au niveau local comme national, ont été enterrées par les démocrates. Et les crimes policiers ont continué à augmenter, passant à l'échelle nationale de 1000 en 2016 à presque 1226 en 2024. La proportion de personnes racisées demeurant tragiquement lourde parmi les victimes de la police. La présence des démocrates au pouvoir ne suspend pas non plus les enlèvements et les déportations de personnes sans papier. Sous la première administration Trump, 1,5 million de personnes furent expulsées, et ce chiffre devrait être le même sous Biden, puisque de 2021 à 2023, elle atteint déjà 1,1 million. Or cette fois, Trump promet la déportation de 10 millions de personnes. C'est pourquoi, dès son arrivée au pouvoir, certains réseaux sont déjà prêts à une résistance âpre. En réalité, les réactions populaires aux agressions de l'ICE sont rendues possibles parce que les réseaux existaient au préalable et se sont préparés depuis au moins la fin de l'année 2024. Toujours sur CrimeThink, si personne ne répond à ces mercenaires d'État vêtus d'habits militaires qui kidnappent des gens dans la rue, si nous acceptons tout cela passivement, alors il n'y a plus de limite à la violence que l'administration peut faire subir à une quantité de cibles toujours plus grande. Le plus important est donc de ne pas éviter la confrontation, mais d'y être préparé, d'être coordonné, stratégique et consciente.
Vamos juntos, levantando la bandera, en México y afuera, al grito de guerra, el que es perico, canta donde quiera, y que retiemblen sus centros la tierra. Dicen que la unión hace la fuerza, México es firmeza, a la Virgen le rezan, estos tres colores, donde quiera pesan.
C'est ce qu'on appelle les groupes de réponse rapide, qui mettent en place des discussions sur la messagerie sécurisée Signal, par exemple, ou des lignes téléphoniques joignables à tout moment, au bout desquelles des militants et des militantes peuvent donner des conseils juridiques ou lancer un appel à mobilisation. À Atlanta, l'Alliance géorgienne Latino pour la défense des droits humains organise depuis décembre des ateliers pour que les personnes privées de papier connaissent leurs droits. Ne pas ouvrir la porte de chez elle aux agents, ne pas répondre aux questions, demander à un employeur ou une employeuse d'imposer à l'ICE de quitter les locaux d'une entreprise. Bien souvent, l'ICE prétend qu'un mandat administratif est suffisant pour lui ouvrir les portes d'un lieu. Or, c'est un mandat judiciaire qui lui donne ce droit. De la même manière, les agents ont tenté d'interroger les enfants d'une école primaire de Los Angeles en faisant croire aux profs qu'ils avaient l'autorisation des parents. Sur la côte Est, la New York Immigration Coalition prépare une charte pour faire de New York et du New Jersey un véritable état-refuge pour tous. Elle consacrerait notamment l'interdiction de la construction de centres de rétention pour les personnes privées de papier dans l'État et l'interdiction pour les forces de police locales de collaborer avec l'ICE. L'organisation forme en permanence des personnes capables de conseiller les personnes menacées. Elle participe activement à la campagne « Connaître ses droits » qui, de l'aveu même du tsar des frontières, rend très compliquées les expulsions. L'un des membres de la coalition, qui préfère garder l'anonymat, explique. Nous étudions aussi la capacité de réponse rapide depuis un point de vue communautaire. Comment pouvons-nous construire des communautés qui soient capables de se protéger les unes les autres? Cela est particulièrement en puissançant. Beaucoup de gens sont venus nous rejoindre. Ces communautés me donnent beaucoup d'espoir. Elles ont une culture où on prend soin de chacun, de chacune, où on se soigne ensemble. Ici, il n'y a pas d'individualisme. C'est ça l'organisation. C'est venir ensemble et se tenir côte à côte comme des alliés, solidaires avec qui que ce soit dans la communauté qui se fait attaquer. Nous avons survécu à la première administration Trump, et nous survivrons à la seconde. La solidarité est l'outil le plus puissant pour que notre communauté fasse plus que survivre, qu'elle s'épanouisse et qu'elle fasse histoire. Sur les réseaux circulent depuis le début de l'année des PDF intitulés « 8 choses que tu peux faire pour stopper l'ICE ». Connaître tes droits et éduquer ta communauté. Vérifier les rumeurs et transmettre les infos véritables sur la géolocalisation de l'ICE via des hotlines ou des réseaux Signal. Mettre en place des réseaux de réponse rapides. Organiser l'aide mutuelle. Encourager ses proches à se passer de la police en mettant en place des processus autonomes de résolution des conflits. Déconstruire la narration criminalisante de l'État envers les personnes racisées. Se solidariser avec les personnes arrêtées. Combattre la construction d'infrastructures liées à l'ICE et plus largement à l'enfermement et à la déportation. Et créer du lien social. Connecter les communautés entre elles afin que l'ICE sache que dès qu'elle s'attaquera à l'une d'elles, elle aura à faire face à une résistance organisée et déterminée. Dès le mois de février, après une grande marche à Los Angeles, le magazine Truth Out sortait un article intitulé « Votre communauté est-elle prête à combattre les déportations ?» Il démontrait déjà comment les milieux étudiants, syndicaux, de soignantes et de travailleurs sociaux, et même certaines communautés religieuses, préparaient à l'autodéfense. Heidi Torres, membre du réseau COSECHA qui vise à organiser les communautés pour la défense des personnes privées de papier à travers l'ensemble des États-Unis, confie « Il y a toujours eu des raids et des déportations. » Certains membres qui sont là depuis 20 ans vous parleront de leurs cousins, oncles et tantes qui furent déportés sous l'administration Obama ou Biden. Nous conservons tous ces souvenirs au sein de nos communautés, et cela nous permet d'organiser la défense contre les déportations. Vois comment l'ICE opère dans ta communauté, et tu seras prêt. C'est ça l'idée de la réponse rapide. Nous avons un centre communautaire à Elizabeth désormais, et nous allons nous mettre à faire davantage d'ateliers d'entraînement à partir du mois prochain. Nous avons besoin de faire parler de cela pour que les gens puissent contre-attaquer. À Tucson, en Arizona, à une centaine de kilomètres de la frontière mexicaine, la situation est critique. Carrasco, membre du collectif Derechos Humanos, confie « Nous sommes en état de siège. À Tucson, la morgue a une capacité de 300 corps. La plupart d'entre eux sont des personnes en exil trouvées dans le désert. Des corps non identifiés, inconnus, de très jeunes gens, de l'âge de mes enfants. J'étais pas prêt la première fois. J'ai fait une dépression, j'ai commencé à prendre des cachets. Et quand Trump a gagné, j'étais découragé. » Mais lorsque quelqu'un essaye de te mettre à terre, tu dois trouver de la force et te relever. Alors nous avons commencé à réunir la communauté. Qu'allions-nous faire ? Nous ne pouvions pas être découragés. Nous devons continuer à nous battre. Alors j'ai regardé les jeunes qui vont à la fac. Leurs parents n'ont pas de papier, mais eux en ont. Ils veulent changer les choses et ils se battent pour leurs parents, pour leur famille. Et c'est ce qu'il se passe dans l'ensemble des États-Unis. C'est ça qui me donne beaucoup d'espoir. Soldados de Zapata, somos hijos de Villa. Si de México se trata, me muero en la guerrilla. Prefiero morir de pie que vivirla de rodillas. Hago lo que hago por el bien de mi familia. Y que se joda el puto del trompas. Siempre unidos, aunque muros pongas. Acá somos gente, somos compas. A la verga tú y tus ideas tontas. Dès le lendemain, Trump déclare la situation hors de contrôle pour dénigrer la majorité démocrate et envoie la garde nationale dans la ville, sans l'avis du gouverneur de Californie. Un autre parallèle avec la résistance antiraciste, que la garde nationale intervienne contre l'avis de l'État régional, c'est particulièrement inhabituel et n'était pas arrivé depuis les marches pour les droits civiques en 65. Le gouverneur de Californie lui-même appelle à laisser les personnes en migration tranquilles et dénonce l'horreur que l'ICE leur fait subir. Pure communication. Les démocrates locaux, bien qu'opposés à Trump en apparence, estiment simplement qu'ils n'avaient pas besoin de la garde nationale pour réprimer les manifestations. Autrement dit, que leur propre police s'occupait très bien de faire le sale boulot toute seule. Ce même gouverneur de Californie, déjà en poste en 2020, avait alors déployé 8000 soldats de la garde nationale pour contenir les émeutes. Même la maire de Los Angeles, Karen Bass, se dit consternée par la présence de l'ICE tout en mettant sa police au service de la répression, rendant ainsi possible la poursuite des activités de l'ICE et la mise en place du régime de Donald Trump. Dans les rues de Los Angeles, des milliers de personnes se rassemblent encore le 8 juin. Partie de la mairie, elle se dirige à nouveau vers le centre de détention métropolitain, où sont détenues des personnes arrêtées ces derniers jours. Sur le parcours, une camionnette de l'ICE tente de traverser la foule qui la bloque. La police de Los Angeles intervient, disséminant le cortège, mais une partie s'installe sur l'autoroute et la bloque jusqu'à la tombée de la nuit. Sur une avenue de la ville, des manifestants commandent à l'aide de leur téléphone un certain nombre de véhicules autonomes de Google, capables de se rendre où on les appelle pour répondre à une demande de taxi. Ils sont disposés en barricade par les émeutiers et émeutières et incendiés. Google désactive immédiatement les véhicules de Los Angeles et de certains quartiers de San Francisco, préventivement. Ce jour-là, la police est dépassée. Elle déclare le centre-ville zone de rassemblement illégal et tente d'en ceinturer l'accès. C'est le lendemain que les militaires de la garde nationale sont déployés et la violence se déchaîne sur les rassemblements. Alors ce sont de petits cortèges très rapides qui se disséminent dans la ville et en soirée, les pillages se multiplient. La maire de Los Angeles annonce alors la mise en place d'un couvre-feu sur une petite partie du centre-ville, aussitôt bravée par des milliers de personnes.
get a chance, boy, what you think? I'm doing everything but the kitchen sink. I try to be feeling in the neighborhood. I know all the little grannies wanna sip they tea. And here you come all barging in, all ugly like a brown fur cardigan. We can skip that monologue and arguing. I'm like,
en quelques jours, ce sont des centaines de personnes sans papier qui sont concernées par les rafles. On chiffre bientôt 2800 arrestations en 3 semaines. Même des partisans républicains sont renvoyés dans un pays qu'ils ne connaissent plus. Parfois un pays en guerre ou en péril économique, à l'image du propriétaire d'un fast-food dédié à Donald Trump, menacé d'expulsion au Liban. L'ICE n'agit d'ailleurs pas clandestinement. Ses interventions sont filmées et diffusées sur les réseaux sociaux, ce qui a suscité une vague d'indignation. Toute cette mise en scène fait partie intégrante de la stratégie de Trump de durcir la présence et l'autorité de l'État. Entre avril et juin, les premières aides de l'ICE se sont chiffrées et sinistrement présentées par l'administration. En avril, 24 travailleurs d'un Home Depot à Pomona. En mai, 36 Chinois et Taïwanais dans une banlieue de Los Angeles. Ce qui est en jeu ici, c'est bien la suprématie blanche. Les États-Unis, soit un État colonial construit et conçu par et pour les Blancs, encore dominé et dirigé par les Blancs, refuse de se transmuter et doit chaque fois devenir plus autoritaire pour survivre en l'État. Les tenants d'un nationalisme blanc nataliste qui se range derrière Trump appellent clairement à un nettoyage ethnique des États-Unis. Comme l'expriment des militants anti-autoritaires de Seattle, entre l'escalade du génocide en Palestine qui est entrée dans sa 76e année et les attaques virulentes contre les immigrants ici sur l'île de la Tortue, il est de plus en plus évident que les frontières tuent. Contre les affirmations des libéraux comme des conservateurs que celles-ci sont nécessaires, nous soutenons une analyse anticoloniale. Non seulement la migration est une part essentielle de la vie humaine comme de tant d'autres formes de vie, mais dans notre contexte, les personnes en migration représentent souvent une force indigène menacée par une réalité coloniale. Depuis les réseaux et les espaces de lutte, les activistes anti-autoritaires appellent alors à choisir les lieux de confrontation avec l'ICE, comme ce fut le cas en 2018 lorsque les bureaux de l'organisation furent cernés et bloqués. En plus de la réponse rapide, de cette résistance au quotidien pour venir en aide à ses voisins et voisines menacés par l'État suprémaciste, ils appellent à venir chercher l'ICE dans ses propres locaux, d'empêcher les déportations en s'opposant physiquement au départ des camions et des avions. C'est alors que des affrontements éclatent ailleurs dans le pays. D'abord en Californie, à San Francisco ou à Bell, après que la police ait foncé dans la foule en véhicule. Le 9, à Austin, Texas, le bâtiment fédéral qui héberge l'ICE est théâtre de manifestations. La foule danse sur les avenues au bruit des tambours, tandis que le slogan « Chinga la migra » résonne. Alors qu'une nuit, les barricades fleurissent et que les vitres du bâtiment volent en éclats, la foule se répand en plusieurs cortèges dans toute la ville pour crier sa colère. Les forces de police sont dépassées. « Nous pouvons gérer une marche de 10 000 personnes », disait un commandant de police en 2020, « mais 10 marches de 1000 personnes et nous sommes submergés ». La garde nationale est finalement déployée le 10 juin dans l'ensemble du Texas. À New York, Atlanta, Boston et Philadelphie, des marches emplissent les rues contre les rafles. Un peu partout, les gens crient « LA, lead the way !»« Los Angeles, mène la danse !» À Chicago, après que 12 personnes aient été kidnappées dans le tribunal, des activistes appellent à cerner le bâtiment. Celui-ci ferme ses portes et le cortège se dirige alors vers le bâtiment de l'ICE en hurlant « Libérez-les tous !» et finit par assiéger la Trump Tower. À Spokane, dans l'état de Washington, un couvre-feu est également décrété, alors que des affrontements secouent Seattle dès le 10 juin. Là encore, c'est le Federal Building, bâtiment qui héberge l'ICE, qui est l'objet de nombreuses manifestations depuis bientôt un mois. Mais ce jour-là, galvanisés par le soulèvement de Los Angeles, les militants et militantes décident d'en bloquer tous les accès jusqu'à nouvel ordre. Vers 20h, la police tente une sortie, mais les véhicules sont bloqués. Et alors que 2 personnes sont arrêtées, la foule lance l'assaut. Certaines se saisissent du drapeau états-unien sur le fronton du bâtiment et le brûlent. Les 2 personnes sont finalement relâchées. L'encerclement du Federal Building de Seattle se poursuit durant 5 jours, durant lesquels des sections sont fermées et les personnes y travaillant mises au chômage technique. Chaque jour, alors que l'ICE continue ses raids, des barricades sont installées dès la mi-journée et les personnes kidnappées le matin sont relâchées dans l'après-midi. La police attaque les rassemblements qui réunissent jusqu'à 5000 personnes, sans jamais pouvoir dégager totalement les barricades qui refleurissent sans cesse. Les Black Blocs sont venus avec de magnifiques boucliers peints des mots en blanc sur noir. Nous ne sommes pas une menace, nous sommes des boucliers. Le 11, le drapeau jaune et noir des personnes non-binaires est tissé à la place du drapeau états-unien brûlé la veille. Et le 14, l'ICE décide finalement de se choisir un autre QG, à 5 km au sud de Seattle. Là encore, un rassemblement tente d'empêcher les enlèvements. Mais l'ICE, fonçant dans la foule avec ses véhicules et l'appui de la police locale, parvient à passer. C'est d'ailleurs en ce 14 juin que culmine la contestation, jour de l'anniversaire de Trump, qui s'offre une parade militaire. pour dénoncer les manœuvres de l'autocrate, et alors que la guerre contre l'ICE est dans toutes les têtes, le jour est nommé le No King's Day, le jour du refus du roi. Plus de 2000 marches sont recensées dans le sud de la Californie, et la foule emplit les rues de Los Angeles. Alors que les militaires de la garde nationale sont encerclés, la police à cheval charge pour les libérer. Ces 10 jours de confrontation entre l'État et les personnes solidaires ont constitué le soulèvement le plus vaste qu'aient connu les États-Unis depuis 2020 et Black Lives Matter. Cette dynamique, comme le fait que le New York Times publie désormais les statistiques de meurtres policiers, témoigne d'une évolution dans la société états-unienne et de la manière dont la population voit son propre État. C'est aussi ce qui a permis, un peu partout, aux communautés de s'organiser de manière autonome pour libérer des personnes privées de papier que l'ICE avait kidnappées. Durant ces 10 jours, une prédiction a fleuri sur les murs. « The Ice Age is over », l'âge de glace est achevé. Car, si le soulèvement s'est interrompu, la résistance se poursuit. Il est même certain que ces émeutes aient permis d'agrandir les réseaux et les initiatives solidaires, de fortifier les communautés face à la violence des différents corps armés de l'État. Ainsi, à Los Angeles, des personnes s'organisent désormais tous les jours pour patrouiller en voiture, tiennent des guets pour prévenir de l'arrivée de l'ICE, apportent de l'aide alimentaire aux personnes qui ne peuvent plus sortir de chez elles par peur d'être kidnappées. Des applications ont été créées pour géolocaliser en direct les interventions et les déplacements de l'ICE. L'une d'elles, nommée IceBlock, est arrivée en tête des téléchargements de l'App Store début juillet. Le cop-watching est également une arme décisive pour reporter les arrestations et dénoncer les violences racistes dont est victime, dans la majorité des cas, la communauté latino-américaine. Sur les parkings des Home Depot, une surveillance citoyenne s'est mise en place et l'on dresse des tentes pour faire du conseil juridique. Des manifestations ont même lieu dans les magasins pour exiger du patronat qu'il interdise les arrestations dans les locaux de l'entreprise. L'organisation Black Rose, Rose Noire, encourage les syndicats à se saisir de la lutte, à travers l'adoption de résolutions dans les comités exécutifs et l'organisation de débrayage pour amener des cortèges de travailleuses dans les manifestations. L'idée est notamment de forcer les entreprises à protéger ses salariés, voire d'obtenir des dispositions qui interdisent les rafles dans les conventions collectives. Ainsi, des assemblées populaires se tiennent à l'usine ou dans les facs pour tenter de trouver des solutions collectives. Les réseaux de réponse rapide sont toujours actifs. En août, à Edison dans le New Jersey ou à Washington DC dans le district de Columbia Heights, les voisins et voisines sont encore parvenus à expulser l'ICE de leur quartier alors qu'elles tentaient d'arrêter des personnes privées de papier. La mobilisation des communautés a même forcé Trump à faire intervenir la garde nationale au cœur même de la capitale fédérale. Des équipes d'avocats se relaient à travers le pays pour se rendre spontanément sur les lieux de l'intervention, assurer le respect des droits ou empêcher l'ICE d'agir dans des lieux non publics si elle n'est pas munie d'un mandat d'arrêt judiciaire. Le Centre national de la législation migratoire vient de publier un guide à destination des employeureuses pour qu'elles puissent interdire l'ICE au sein des entreprises, affirmant le droit d'un employé à opposer aux agents fédéraux « En l'absence de mon employeur, je ne peux pas vous autoriser à rentrer, il faut que vous le contactiez ». L'administration scolaire de Los Angeles a même mis en place des ateliers à destination des directeurs et directrices d'école pour faire face à l'ICE et a créé un site web « Connaître ses droits » à destination des familles. Toujours à LA, une vidéo tourne où le staff d'un hôpital s'interpose et s'impose face à l'ICE lorsqu'elle tente d'interpeller l'un de leurs collègues. Partout dans le pays, ces scènes se répètent et sont diffusées, encourageant les liens humains à devenir plus forts que l'État. Heidi Torres, membre de Cosecha, conclut « Il y a tellement de moments inspirants quand tu t'organises avec ta communauté. Les gens me tiennent ancré. Et puis, nous avons de grandes victoires ici ces dernières années, y compris sous l'administration Trump. Nous voulons empuissancer les gens et qu'on se souvienne de ce que l'on gagne. Nous devons être résilientes et courageuses. C'est ce que la Palestine m'apprend en ce moment. » Il y a un chant en espagnol, « Estado opresor, pueblo luchador », État oppresseur, peuple qui lutte. Et là, je pense que nous avons passé le point de la simple désobéissance civile. Comment pouvons-nous utiliser notre pouvoir économique comme travailleuse? Ce pays dépend de notre travail et du travail des sans-papiers. Il faut rappeler aux gens l'importance de l'immigration. Wing boy.
warlord, Mr. Miller's on fire. Go raid a 7-Eleven, let's lift that barbed wire. Try Home Depot, maybe a daycare too. We need big numbers, that's MAGA's Q.
C'était le premier épisode de la saison 6 de l'Actu des Oubliés. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez tous nos épisodes sur l'audioblog de l'Actu des Oubliés, ainsi que les sources qui nous ont permis de réaliser cet épisode. En termes de musique, vous avez pu entendre deux chansons créées durant le récent soulèvement, l'une simplement intitulée Anti-Ice, l'autre Ice Ice Baby, ainsi que Start a Riot de Duckworth. Merci à tous, prenez soin de vous et à dans un mois pour le prochain épisode.
And the message is clear, don't come close or disappear. Refugees fleeing death and war, treated like felons in a grocery store. MAGA men cheer from a recliner chair as armored ICE trucks choke the air. But wasn't this Hitler's early play? Hush now, Lib USA all the way. So if you're brown or poor or born too late, America's building a deportation state. No judge, no jury, just a midnight shove, with Stephen Miller whispering for the country I love. ICE, ICE, baby. Ice, ice, baby.